Alors, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Et si vous prenez le train en marche, sachez qu'on est dans une série qui s'appelle La Grande Histoire. C'est ce manuel qui est là, que j'ai ici dans les mains. Donc, si vous ne l'avez pas encore, il faut l'acheter. Pourquoi ? Parce que les 12 prochains messages seront sur ce livret-là. Donc, ceux qui ont participé au week-end d'église, ils ont eu une version gratuite. Et donc, bien sûr, si vous ne l'avez pas, on vous la vendra. Mais c'est pas cher, hein, c'est 6,90 francs. Donc, et honnêtement, c'est un bel outil, et c'est pour ça qu'on demande à ce que tout le monde l'ait, c'est qu'on voulait former toute l'église. Déjà, ça sera utile pour vous, personnellement, parce que vous aurez une idée du méta-récit. Vous voyez, le fil rouge qui traverse toute la Bible. Et ce petit livret vous donne une base théologique vraiment importante. Aujourd'hui, on est dans le troisième message. On en a fait un pendant le week-end d'église, qui s'appelait, c'était la première leçon, pardon, voilà, c'était sur la création. Et bon, c'était l'horaire qui convenait pas, mais j'avais demandé à John, normalement on aurait fait la première séance avec John et on enchaînait. Dans les anciens manuels, John Glass avait un QR code avec juste à scanner et il y avait un message derrière de John Glass sur la fiabilité de la Bible. Ils l'ont retiré du manuel, mais moi j'ai dit mais pourquoi s'en priver ? Et donc c'est pour ça, on avait John à Genève, je lui ai demandé de faire un message et c'est finalement le message que vous avez eu la semaine dernière sur la fiabilité de la Bible. Parce que c'est la base. Si on a confiance dans ce que disent les Écritures, et si on a compris que la Bible était fiable, alors tout le reste va s'enchaîner naturellement. Mais voyez, il fallait poser le socle, le fondement. Et puis ensuite, nous, on a regardé la session numéro 1, qui était la création. Vous vous souvenez de ce passage-là ? Donc la création, c'est les deux premiers chapitres de la Bible. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Dans le manuel, on lit plusieurs séquences. Donc vous voyez, ça se découpe comme ça. En haut, vous voyez ici Genèse 1, versets 1 à 5, c'est ce qu'on a lu. Ensuite, on a lu les versets 24 à 31. Et ensuite, on a lu le chapitre 2, les versets 15 à 25. C'est un choix de l'auteur du livre pour éviter les redondances, parce que si vous avez bien lu le Nouveau Testament, la Bible, vous allez vous apercevoir qu'il y a deux récits de la création. Un qui fait un zoom macro, hein, en gros un Google Maps, quand vous prenez votre Google Maps, et dans le chapitre 2, il va se rapprocher et distinguer les choses, et là on a un Google Street View. Donc vous voyez, on a vraiment deux zooms différents, et donc c'est pour ça que vous n'allez pas forcément trouver les mêmes détails. Donc eux, ils ont fait une sélection. Rien ne vous empêche de le lire directement dans la Bible et de tout lire. Et au contraire, c'est même préférable de le faire. Donc là, ils nous ont facilité la tâche. C'est juste pour une question de longueur, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'inspiration du texte. Et la deuxième raison, donc ça c'était la première, c'est que c'est vraiment fondamental, mais c'est aussi que ça nous donne un outil pour partager l'évangile avec nos amis. Et ça, c'est un deuxième objectif qui est hyper important, c'est que vous allez avoir un outil avec vous que vous pourrez transmettre facilement. Donc là, c'est un outil, en fait, il n'y a que les versets bibliques et des questions sur le texte. Et il y en a plein qui m'ont dit « Oui, mais moi, je ne sais pas répondre aux questions. » Je dis « Ok, alors je vais faire une prédication sur chaque texte. » Et comme ça, tu auras des réponses. D'accord ? Et ces textes-là, on les retravaille dans les groupes de maison. Donc là, nous, on se rejoint lundi chez nous et on va attaquer ce chapitre. Alors, ce sera encore tout frais dans nos têtes. Sinon, vous aurez la prédication, vous aurez mes notes de prédication et vous avez le manuel. Et puis, en plus, vous pouvez même prendre des notes. Aujourd'hui, vous pourriez prendre des notes en disant « Ah oui, voilà la réponse ». On ne vous demande pas de faire un exposé comme moi. Hein, quand on a, ça vous donne des bases à vous de réponses, mais il ne faudra pas dire tout ce que j'ai balancé dans le message, parce que sinon ça sera imbuvable. Et ce n'est pas à vous de trouver les réponses. C'est à la personne avec qui vous allez partager ce livret. Et c'est elle qui devra trouver les réponses toute seule. Notre but, ce n'est pas d'essayer de convaincre, mais que la personne comprenne ce que dit la Bible. Uniquement ça. D'accord ? Donc ça vous laisse très libre, et l'autre aussi, d'avancer, d'être convaincu ou pas, c'est pas votre problème en fait. Vous priez, et c'est le Saint-Esprit qui va faire le reste avec ses Écritures. Ok ? Voilà, j'ai rappelé en gros le manuel. Alors la dernière fois, on avait vu, l'objectif était de découvrir l'intention de Dieu dans la création. Et donc si vous regardez dans votre livret, ici à la fin du chapitre, enfin de la session numéro 1, vous avez le début de la session numéro 2. Alors pour ceux qui ont le livret, si vous l'avez, vous pouvez prendre avec moi, c'est à la page 11. À la page 11, on avait la création et l'objectif est fixé. Donc vous voyez, c'est ici, sur le manuel. On finit la leçon, on attaque la session 2, et là, il y a toujours en haut de la page un résumé que je vous ai mis ici. Dieu a créé un monde parfait et harmonieux dans lequel l'homme était libre de lui faire confiance en obéissant à la seule limite qui lui était imposée, celle de ne pas manger du fruit qui permettait d'accéder à la connaissance du bien et du mal. Voilà en gros le résumé de la première leçon. D'accord? Et c'est bien qu'on ait un petit résumé comme ça, ça nous rappelle, comme on va se voir tous les, une fois par semaine ou tous les 15 jours, eh bien, en reprenant le résumé, on se dit, ah oui, c'est ça qu'on avait vu la dernière fois. Parce que vous allez voir qu'il y a un lien entre la première leçon jusqu'à la dernière. Il y a ce fil rouge qui revient constamment. Et aujourd'hui, probablement la leçon la plus fondamentale. La chute. Et eux, ils n'ont pas appelé la chute. Comment il a été intitulé ce message, ceux qui ont reçu la pub? L'indépendance. C'est Independence Day. Vous allez voir que ce jour-là, ils auraient mieux fait de pas manger, de faire un peu de régime. Parce qu'il y a des conséquences, les amis, hein. Quand on mange de certaines choses, il y a des plats empoisonnés parfois. Celui-là l'était. Celui-là l'était. Non pas dans le fruit, mais dans les conséquences que ça va générer derrière à cause de l'interdiction qui pesait sur un fruit. En fait, le fruit d'un arbre dans un jardin immense où il y avait des milliers de sortes de fruits. Et voilà, c'est ce qu'on va lire ce matin. Et donc, je vous invite à prendre, donc si vous avez le manuel, vous prenez le manuel, on va lire le texte, mais c'est pas moi qui vais le lire. Et ça, je remercie Donovan et Valériane, nos étudiants de l'IBG qui sont là cette année, qui m'ont fait découvrir une super application qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Écouter la Bible ensemble. Vous pouvez la télécharger soit sur Apple, soit sur Android. Ça fonctionne excellemment bien. Et là, vous avez juste un extrait de la Bible drama. Donc, c'est-à-dire que c'est des acteurs qui comptent la Bible. Enfin, ils la lisent, hein. C'est pas compter dans le sens imaginer, c'est vraiment lire. Donc je compte sur la technique maintenant. Et le texte, vous pouvez le suivre ici. Et aujourd'hui, on va découvrir l'origine de la souffrance dans le monde.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent,
« Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. »
Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Il répondit
« J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. »
L'Éternel Dieu dit
« Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?»
L'homme répondit
« C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. »
L'Éternel Dieu dit à la femme
« Pourquoi as-tu fait cela ?»
La femme répondit
« Le serpent m'a trompée, et j'en ai mangé. »
L'Éternel Dieu dit au serpent
« Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre. » Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
Il dit à la femme,
j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi.
Il dit à l'homme,
puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière.
Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit
« Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. »
Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Merci. C'est pas mal la lecture quand même, hein? Donc vous pourrez, le matin, en vous levant, écouter la parole de Dieu comme ça, c'est génial. Franchement, je le fais depuis quelques jours, c'est waouh. Ça donne une autre dimension en fait. Toute cette orchestration, vous avez vu qu'il y a quatre personnages ici. Il y a le narrateur, il y a Adam, il y a Ève, il y a le diable et Dieu, cinq. Donc on a vraiment ici de quoi écouter vraiment. Et c'est cette version qu'il y a dans, en plus, dans le manuel. C'est la seconde 21. Alors, on va reprendre le manuel. Quelle est la première question qu'on nous demande à chaque fois ? C'est de résumer le texte qu'on a lu. Alors, on va pas le faire ici, mais l'idée c'est vraiment que chacun à la maison relise le texte et fasse soi-même le résumé. Et puis, on se le partage. Et puis, si on voit qu'on a « Ah bah tiens, j'ai oublié ça », vous voyez, l'idée c'est vraiment de se mettre dans le texte. Quand on fait un résumé, ça nous oblige, ça nous force à lire d'une manière plus attentive. C'est uniquement pour ça. C'est pour qu'on ait bien saisi ce que dit le texte, d'accord ? Donc, dans les notes, moi j'ai fait le résumé, mais je vais pas vous les lire, ça n'aurait pas d'intérêt. Quelle impression ou émotion se dégage du récit ? C'est la deuxième question. Et là, c'est la même chose. C'est que moi, je peux répondre à la question, mais c'est plutôt à la personne avec qui vous allez discuter qui va partager ce qu'elle ressent. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Là, je vous pose la question. Quand on a lu ce texte, alors ça s'est terminé avec l'orage, c'était brrr, mais avant, est-ce que c'est joyeux ? Est-ce que c'est dramatique ? C'est beaucoup plus dramatique que joyeux, n'est-ce pas ? Il y a quand même une bonne nouvelle dedans. Vous trouvez pas? Il y a que moi qui l'ai vu. Il y a une bonne nouvelle, mais c'est au milieu de beaucoup de choses négatives. Donc, honnêtement, c'est pas terrible ce morceau de la Bible. Waouh! On est passé de la création parfaite dans un monde harmonieux, les relations étaient belles, les hommes et les femmes n'étaient pas en guerre, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de féministes, il n'y avait pas de machos. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. C'est la réalité. Et là, patatras, on peut dire que ça se casse la figure. Littéralement. Tout s'effondre à ce moment-là. Et donc, voilà, les émotions, c'est plutôt pessimiste et négatif ici. Et c'est, je pense, ce qu'il faut ressentir. Maintenant, chacun va ressentir différemment. Et là, il y a vraiment de la liberté aussi. On n'impose pas les émotions, d'accord? Il y en a qui pourraient trouver ça génial. Ça me donne au moins une explication à la souffrance. Vous voyez, on peut aussi trouver ça génial, parce qu'on a une véritable explication à nos douleurs quand on se lève le matin, ou quand on a un décès dans la famille, vous voyez. Et donc, c'est différent. Troisième question, et là, on va rentrer dans le cœur du message. Ça sera la partie la plus longue que je vais développer. Qu'est-ce qui a décidé l'homme et la femme à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? On peut pas raisonner à la place de Adam et Ève parce que nous, on est nés pécheurs. Pas eux. Pas eux. Qu'est-ce qui les a influencés? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont mangé de ce fruit? Allez, aidez-moi. J'ai pas bien lu mon texte ce matin. Il faut m'aider. Quel est le premier facteur? Pardon? Curiosité. Ok, pourquoi pas. Curiosité. J'aurais dit, quel autre facteur ou acteur? Le diable. Alors, dans le texte, c'est pas marqué le diable, c'est marqué quoi? Voilà, tu as raison. Ça, c'est déjà interprété parce qu'on a lu tout le reste de la Bible, mais ici, le diable est là sous la forme d'un serpent. Le diable ou Satan, hein, c'est le même mot. Calomniateur, menteur. Mais en tout cas, ici, il est dit que c'était un animal qui était rusé, un chenapan. En fait, il va avoir un rôle clé ici. Notez que le diable ne fait pas grand-chose. Le diable, il suggère, il susurre. Et là, on peut dire qu'il a même jeté une peau de banane sur le chemin d'Adam et Ève. Parce qu'ils vont glisser dessus, hein, mais lamentablement. Ils vont se ramasser. Et c'est ce qu'il va faire ici. Ils ne connaissaient que la voix de leur Seigneur jusque-là. Ils ont été créés parfaits, hein, rappelons-le, dans un monde parfait, et ils ne connaissaient que la voix de leur Seigneur. Ils n'avaient jamais entendu d'autres personnes parler. Il y avait bien des animaux qui étaient passés devant Adam. Ève n'était pas encore là, ils étaient passés devant Adam, donc il avait dû essayer de dialoguer avec les chimpanzés ou les zèbres, vous voyez, c'était compliqué. Donc il connaissait la voix de Dieu, pas de communion, donc qu'est-ce que Dieu fait? Il crée une femme. Une femme parfaite. La femme parfaitement adaptée à Adam. On est d'accord? Si vous cherchez la femme parfaite, regardez bien ce récit, ça va peut-être vous décourager de chercher la femme parfaite. Ou vous, mesdames, si vous cherchez l'homme parfait, pourquoi? Parce que ça s'est mal passé pour les deux. Et la chute fait que ça se passe relativement mal, généralement. Alors attention, dans les couples chrétiens, on a des armes supplémentaires, on a le Saint-Esprit, on a la Bible, on a le manuel du constructeur, mais la plupart des gens, eh ben, ils bricolent. Parfois ça se passe bien le bricolage, mais c'est parce qu'ils appliquent les principes bibliques sans le savoir. Mais on voit que malgré tout ça, c'est quand même compliqué, n'est-ce pas? Et là, on a une explication de pourquoi on souffre dans nos couples, pourquoi on souffre dans nos corps, pourquoi on meurt. Tout est là, les amis. Ce texte est fondamental. Et il y a un personnage qui nous y a poussé, c'est le serpent. Première chose que fait le serpent, il remet en cause la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Vous voyez, ça c'est une remise en cause claire de la parole de Dieu. Et quand on remet en cause la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça crée le chaos. Est-ce que vous vous souvenez comment Dieu a créé l'univers? Quelles sont les paroles dans le texte? Dieu dit que la lumière sort. Et la lumière fut. Il dit, ça se fait. Donc, lorsque, et c'était le chaos, Dieu dit, et il ordonne, il sépare, il classifie, il met des lois en place. Et tout cela, c'est l'ordonnation de la parole de Dieu. Donc quand Dieu parle, la parole de Dieu, ça enlève le chaos, ça crée de l'ordre. Quand le diable arrive, on remet en cause la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On crée du désordre et le chaos. Et la plupart du temps, quand on s'embrouille dans nos couples, les amis, c'est qu'on n'applique pas la parole de Dieu. Quand il n'y a plus la parole de Dieu au centre, ou dans une église, quand il y a des embrouilles, c'est qu'on ne respecte pas les principes. Quand on bafoue la parole de Dieu, c'est le chaos. C'est le chaos, c'est comme ça. C'est une règle universelle. Deuxième chose que le diable fait, c'est qu'il va remettre en question la bonté de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Là, il est en train de leur mettre sous le nez le fait qu'ils n'ont pas le droit de goûter à quelque chose. Ah, mais pauvre! Mais Dieu, il doit être méchant pour ça. Vous n'avez pas le droit de manger du fruit, de ce fruit. Mais il est beau en plus, regarde! Regarde comme il est beau! Et on attire le regard, le diable va attirer le regard d'Ève sur ce beau fruit. Et oui, effectivement, ce n'était pas un truc moche avec des épines ou des piquants. Non, non, il était agréable à la vue. Hein, c'était pas une ronce un hibiscus où c'est assez moche, hein, la fleur de l'hibiscus. Mais là, le fruit, pardon, de l'hibiscus, pas la fleur, le fruit, ça ressemble à pas grand-chose. Enfin, si, ça ressemble à quelque chose, mais alors que si on vous présente un beau fruit que vous avez envie de le cueillir, vous voyez, c'est autre chose. C'est autre chose. Et là, le diable va insinuer que Dieu leur cache quelque chose de bon. Et j'aime mieux la version, en fait, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ça, c'est la version Colombe. L'autre version qu'on avait lue, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Parce que c'est un peu flou. Là, quand il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, avec un point d'interrogation, en fait, il leur insinue qu'il leur manque quelque chose. Pourtant, la bonté de Dieu, est-ce qu'elle était approuvée pour Adam et Ève? Ils la goûtaient chaque instant, cette bonté-là. Le monde était parfait. Ils pouvaient goûter de tous les arbres du jardin, tous, sans exception. Enfin si, sauf une exception, tous. Ça veut dire qu'il y avait des milliers de fruits qu'on pouvait prendre, qu'on pouvait manger librement. Il y en avait un seul qu'on ne devait pas toucher. Et voyez, le diable lui montre juste ce que tu n'as pas le droit de faire. Le serpent, il va remettre en cause l'identité de Dieu. Et oui, parce que quand on remet en cause la parole de Dieu, en fait, on déforme Dieu et on va déformer son identité. J'aime bien ce que dit Matthieu Gérald dans cet excellent livre, je viens quasiment de le terminer, il reste quelques pages. Je vous encourage à le lire, ça se lit très facilement, il n'y a pas beaucoup de pages, peut-être 200 à peine, 150. Donc vous pouvez le lire, très très bon ouvrage. Et je le cite ici, donc dans le livre. En remettant en cause la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'Adam et Ève remettent en cause. Le péché est entré dans le monde parce qu'Adam et Ève ont remis en question qui est Dieu. Le péché est toujours la désobéissance à la parole de Dieu, mais c'est plus que cela. Péché, c'est s'opposer à Dieu, c'est vouloir prendre sa place. Péché, c'est dire à Dieu, c'est moi qui décide ce qui est bien ou mal. Au fond, péché, c'est vouloir que Dieu descende de son trône pour qu'on puisse prendre sa place. Si une vision du monde chrétienne confesse que Jésus est Seigneur, une vision humaniste met l'homme au centre de tout et déclare « Je suis Seigneur ». Je trouvais ça très pertinent comme remarque. Donc, le serpent a remis en cause l'identité de Dieu, mais il va aussi remettre en cause l'autorité et le jugement de Dieu. Hein, vous voyez, mais non, vous ne mourrez absolument pas. Et en fait, là, il est en train de dire, mais il y a pas de conséquences. En fait, il tord carrément le sens de Dieu. Et là, il inverse carrément. Mais non, ça craint rien, t'inquiète pas, tu peux mettre les doigts dans la prise, tu verras, ça fait pas mal. Ah ben oui, lui, il les met pas dedans, alors forcément. Vas-y, t'inquiète, ça craint rien. Fume, un petit coup, tu vas voir. Mais non, tu tomberas pas accro. Mais non, au moins après la deuxième taf, pas la première. Oui, c'est ce genre de petites choses que le diable ici met en avant. Il leur dit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Ça, c'est la suite. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Autrement dit, vous n'aurez plus besoin de Dieu. Vous êtes autosuffisant. Et c'est ce qu'il vise, c'est l'autonomie. Auto, donc c'est moi-même, et nomie, c'est la loi, nomos. Okay? Donc, tu fais toi-même la loi. Tu deviens le législateur. Tu crées toi-même la loi. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais non! Fais ta sauce! Tu seras comme lui! Tu pourras choisir ce qui est bien ou ce qui est mal. Tu vas quand même pas demander à quelqu'un d'autre de le faire à ta place. T'es une créature à l'image de Dieu, t'es intelligent. Tu devrais pouvoir arriver à faire ça. Mais ça, c'était réservé à Dieu, les amis. C'était la seule chose qui était réservée à Dieu. C'est lui le législateur, c'est lui qui définit les règles. Comment on approche Dieu, comment on lui parle, est-ce qu'il faut faire ou pas, c'est Dieu qui le définit. Et le chaos arrive quand c'est nous qui définissons les règles. Quand c'est plus la parole de Dieu, si c'est nous qui le faisons, alors ça part en cacahuète. Et là, il insinue qu'obéir à Dieu, c'est rester finalement dans l'enfance, et que désobéir, c'est devenir adulte. Mais tu vas pas rester un enfant toute ta vie. Vas-y. Et c'est ce que nous, on fait avec nos enfants. Hein? On essaye de leur donner une forme d'autonomie. Mais attention, ça c'est une autonomie humaine, terrestre, sociologique. Et elle est bonne. La Bible nous encourage à cette forme d'autonomie, mais pas à définir les règles. Vous voyez? Donc là, il faut toujours rester dans l'autonomie, mais dans la dépendance à Dieu. Autonome, mais dépendant. Vous voyez? C'est une indépendance, une autonomie qui est très limitée dans un cadre que Dieu a fixé, mais on doit se soumettre au cadre. Or là, il est en train de dire non, tu fais péter le cadre, et comme ça, tu définis toi-même le cadre. Et c'est là où ça va mal se passer. Et enfin, sixième chose que le serpent va suggérer, c'est qu'il va les pousser à désirer ce qu'ils n'ont pas. Vous avez vu qu'il insiste lourdement, et c'est le verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. » Et voyez, au départ, l'homme avait les regards sur Dieu, okay, ou en tout cas placés au bon endroit. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont les déplacer sur ce qu'il ne faut pas faire. Et ils pointent sur la seule chose qu'il faut pas faire. Et bien sûr, ils n'en ont pas utilisé, ils n'en ont pas mangé jusque-là. Donc, quelque part, ils ne l'ont pas dans leur collection. Tiens, on n'a pas goûté cet arbre-là. Hein, peut-être que ça vous le fait aussi. Vous avez fait vos courses, puis hop, vous passez devant une bouteille, vous faites, oh, tiens, celle-là, je l'ai pas encore goûtée. Sauf que vous pouvez passer, s'il y en a plein d'autres, et puis à la limite, vous allez oublier. Sauf que là, le diable attire le regard. Mais regardez, vous n'avez pas ça? Mais il est magnifique, ce fruit. Regardez comme il est bon. Il est bon, en plus. Il est magnifiquement bon. Le goût, franchement, vas-y. Non, tu feras rien. Vas-y. Vous voyez, ce genre de mauvaise influence que vous avez peut-être subi dans votre enfance, ou même aujourd'hui, hein, on a tous des sources d'influence. Eh bien, là, elle est assez évidente. Le fruit n'avait rien de magique. En fait, ce qu'il rendait désirable, c'était la parole du serpent. Par son discours, il a transformé un simple interdit en objet de fascination. Et du coup, il a rendu le péché attirant, comme si c'était la clé d'un bonheur plus grand. Et donc, lorsque la femme voit que le fruit était bon à manger, eh ben, c'est déjà le signe que son regard est plus dirigé vers Dieu, mais vers elle-même, en fait. Parce que ça va être pour moi, d'accord? Ça va être bon pour moi. Hein, tous les enfants sont, c'est moi qui fais. Hein, on a ce désir en nous d'autonomie, les amis, ça vient de là, ça vient de là. En exaltant la beauté du fruit, le diable va éveiller la convoitise, il va créer le manque, alimenter la soif d'avoir ce que Dieu interdit. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il représentait, ou ce qu'il présente comme une bénédiction, va devenir en réalité une malédiction. Et oui, vous avez goûté au péché. Hein. Au général, le péché, il est toujours attirant. Sinon, on n'y vient pas. Si c'est répulsant, honnêtement, on n'a pas envie. Hein. Si je vous dis, tiens, viens goûter, du purin de cochon, c'est bien dégoûtant, je pense que vous irez pas. On est d'accord. Mais si je vous présente quelque chose de beaucoup plus appétissant, hein, une bonne pizza par exemple, ou un beau gâteau si vous êtes plus sucré, là c'est autre chose. Vous voyez, et le diable, lui, il va jouer là-dessus en fait. Donc le fruit était beau et bon. Et donc c'est là où ça se passe mal. Donc vous voyez, il y a un facteur derrière qui va pousser l'homme. Mais en fait, le diable, il ne fait que suggérer, si vous avez regardé. Il pose des questions, il met le doute, il sème. Et c'est tout ce qu'il fait. C'est l'homme, ensuite, qui va, de manière volontaire, responsable, tomber dans le panneau, glisser sur la peau de banane, et puis, malheureusement, en payer les conséquences. Alors, on passe à la question d'après. Comment est-ce que vous définiriez leur acte? Acte d'Adam et Ève. Une désobéissance, ouais, on peut appeler ça comme ça, hein. Une désobéissance, une transgression, hein, c'est la même chose. Ils transgressent ce que Dieu demande. Tentation. Alors, la tentation n'est pas un acte en soi, hein. C'est ni un péché d'ailleurs, la tentation n'est pas un péché. C'est suggéré. Là, on parle des actes. Comment vous définir leur acte? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? Rupture de confiance. Elle fait plus confiance à Dieu et à sa parole. Rupture de confiance, c'est la racine du péché, les amis. Hein. C'est ce qui condamne fondamentalement l'homme. C'est l'absence de foi ou l'absence de confiance en Dieu, en ce qu'il dit pour nous ou même en ce qu'il est, qui nous condamne. Et c'est ce qui nous réconcilie aussi. On est sauvé comment? Par la grâce? Par le moyen de quoi? De la foi, de la confiance en Dieu. Vous voyez, on a perdu, la rupture s'est faite à ce moment-là. Le péché est entré par le manque de, l'absence de confiance, qui va avoir des répercussions, mais vous voyez, la source, elle est là. Jean 16, verset 8, vous pouvez prendre vos Bibles si vous voulez, c'est Jésus qui parle du Saint-Esprit et dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice, de jugement. Ça, c'est le verset 8. Le verset 9 dit « de péché parce qu'il ne croit pas en moi ». Le péché, c'est de fait de ne pas croire en Dieu. Là, on a une autre définition du péché. Bien sûr, c'est la transgression de la loi, comme l'a dit, mais ça va au-delà. En fait, pourquoi on transgresse la loi? Parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Parce qu'on remet en question sa parole, parce qu'on remet en question sa bonté, parce qu'on remet en question son identité. En fait, c'est tout ce qu'on voit là. La chute, c'est vraiment un panel de choses. Nous, on dit la chute, mais en fait, c'est une succession de choses que le diable a suggéré, et l'homme, petit à petit, bing, 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 au fur et à mesure, et là, il s'est éloigné, et là, c'est ce qu'on appelle la rupture, en fait. La chute. Et on peut dire que c'est un acte de rébellion. C'est de la rébellion. Quand on fait quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu dit, si votre enfant, si vous lui dites « tu ne manges pas de ce gâteau » et qu'il vous regarde comme ça et qu'il le mange devant vous, ça s'appelle un acte de rébellion. Eh bien, Adam et Ève n'ont pas fait autre chose. On regardera la responsabilité plus tard, mais ici, c'est vraiment quelque chose qui est volontaire, hein, on est d'accord. C'est un acte délibéré, on fait un choix de se servir soi et de répondre finalement, le diable ne fait qu'utiliser un potentiel qui était déjà là. Mais c'était aussi ça le libre arbitre, c'est qu'il y avait un risque à prendre pour Dieu. En créant le libre arbitre, ben, l'homme pouvait choisir une autre personne que lui. Pourtant, il avait tout donné. Ben, je sais qu'il y a des familles, et je sais que c'est le cas pour certains d'entre vous, vous avez donné tout pour vos enfants, tout, votre vie, votre argent, votre énergie, votre santé, vous y avez laissé énormément de choses. Et parfois les enfants sont ingrats, ils ne vous aiment pas ou plus, et c'est compliqué. Quand on a tout donné, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est compliqué. Alors, quelles ont été les conséquences ? D'une part, sur leur relation avec Dieu, ensuite sur les émotions qu'ils ont ressenties, ensuite sur l'unité de leur couple et leur priorité de vie sur la nature. Allez, on commence. Sur la relation avec Dieu, qu'est-ce que ça a généré ? Rupture, brisée, plus de relation. Excellent. Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il y avait une harmonie entre Dieu et l'être humain ? La peur s'est installée. Alors c'est une émotion ici. Mais séparation spirituelle. Et vous avez vu, alors on va parler de la séparation qui est physique, même là, dans le texte, on le voit d'une manière physique. Ils vont être chassés et donc loin de la présence de Dieu. Donc là, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort, c'est la séparation. D'accord ? C'est ça ce que ça signifie, la mort. Donc la séparation spirituelle, donc la connexion qu'on avait avec Dieu, elle est rompue. Elle est rompue. Donc vous imaginez une connexion Wi-Fi, tu perds la connexion. Et puis là, le problème, c'est qu'on n'a plus la capacité de se reconnecter après. Il faudra une autre antenne, une autre personne qui va venir nous connecter. Donc, expulsé de la présence manifeste de Dieu, donc expulsé du jardin. Et donc ça, c'est vraiment terrible pour eux, parce que du coup, ils perdent cette relation fondamentale qu'ils avaient avec Dieu. Et ils vont perdre la vie. Alors, pas immédiatement. C'est la grâce. C'est la grâce, c'est que malgré le péché, Dieu aurait pu juger là, mais il le fait pas. Et on verra pourquoi. Les émotions. Quelles sont les conséquences sur les émotions? Il y en a au moins trois qui ressortent là. La peur, l'angoisse, j'ai eu peur et je me suis caché. Ensuite, une autre, la honte et la culpabilité, ça va avec. Et ça, c'est parce qu'ils ont pris conscience de leur nudité, alors qu'avant, ils pouvaient se promener tout nus et ça posait de questions à personne. Et ils vont même se construire des habits. Vous voyez, ça a des conséquences. Quand on a peur de quelque chose, quand on a honte, on va construire tout un monde autour pour essayer de se protéger quelque part. Et l'autre, le sentiment de rejet et d'insécurité. Et parce que ça va avec, en fait. Ça, c'est dans leurs émotions, cet effort, quelque part. Donc on passe d'une relation harmonieuse à une quelque chose de pathétique, quelque part, parce que ça fait... On n'ose plus s'adresser à Dieu, on a peur, on a honte, on a l'impression qu'il va nous rejeter ou nous foudroyer. Vous voyez, c'est terrible cette relation-là. Sur l'unité du couple, qu'est-ce qu'on voit ici sur l'unité du couple ? Qu'est-ce que Adam fait vis-à-vis de Ève et que Ève fait vis-à-vis du serpent ? Accusation mutuelle. Ça, personne connaît ici. En fait, on voit cette cascade. Mais c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Attends, je te l'ai créée parfaite. Elle est créée pour toi, Adam. Sans défaut, parfaite, topissime, d'accord ? Miss Monde. Eh ben, Miss Monde, j'en veux plus. Mais c'est à cause d'elle. Et qu'est-ce que fait Ève ? C'est pas moi. C'est le diable, c'est le serpent. Donc vous voyez que ça c'est un quelque chose, je pense que ça vous parle parce qu'on le vit tous en fait. On le vit tous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'unité dans le couple ? Qu'est-ce qu'il dit de l'homme vis-à-vis de la femme ? C'est pas un commandement, attention. Il dominera sur toi. C'est un constat les amis. Je m'adresse aux hommes. C'est pas un commandement. C'est comme le divorce. Non, on enlève. C'est pas un commandement, c'est un constat. L'homme va dominer. Dieu l'a créé avec une masse musculaire de 30% supérieure à la femme. Vous avez plein d'autres choses extraordinaires que nous n'avons pas. Mais la masse musculaire, elle a été donnée à l'homme. C'est pour ça que c'est nous qui avons les métiers quand même qui sont là, ou même quand il n'y a pas de métier, quand on se retrouve dans des situations plus précaires, eh bien... Ça reste, les tâches difficiles restent à faire par les hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes ne le font pas, attention. Mais voilà, Dieu nous a créés comme ça, et vous avez 20% de masse adipeuse supplémentaire. Mais ça, c'est pour l'accouchement, mes amis, mesdames. Donc, tissu adipeux, c'est de la graisse. C'est le mot pour le dire, excusez-moi. J'ai pas dit cellulite, j'ai dit graisse. Donc ça fait partie des réalités et c'est beau et c'est bien comme ça. Quand on essaye de lutter contre ça, mes amis, on va à l'encontre de ce que Dieu a créé au départ pour les bébés en fait. C'est essentiellement pour ça, pour pouvoir accoucher dans des bonnes conditions. En fait, il y a une brisure de l'harmonie originelle dans leur couple, vraiment. Est-ce que j'ai besoin d'interroger les couples ce matin pour vous demander si vous le constatez aussi, parce que c'est la question qui vient juste après, hein. On prend un peu d'avance là. Mais vous voyez que c'est une réalité, c'est une réalité. On s'accuse mutuellement. Mais non, c'est pas moi, c'est toi. Nanana. Où est-ce que t'as mis les clés encore? Oui, je sais, c'est une champ de bataille chez nous. Les clés. Sur la nature, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que vous vous souvenez du récit? La terre, elle est, comme d'habitude, maudite. La terre va être maudite, c'est-à-dire qu'elle sera moins fertile. Il va falloir faire quoi? Travailler la terre et on va devoir transpirer. Donc le travail à la base, il était bon. Hein. Sauf que la chute, elle a amené quoi? La pénibilité. Mais le travail est une bénédiction. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, dit la Bible. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Et c'était un des versets qui a été utilisé par Calvin quand il y avait des gens qui venaient ici à Genève. Quand ils venaient, bon, il y avait souvent des huguenots qui étaient réfugiés, mais pas que. Et donc quand ils venaient, s'ils n'avaient pas de formation, on était prêt à les former, on les orientait, on leur donnait de l'argent pour qu'ils s'installent, etc. S'ils ne voulaient pas travailler, on leur disait « hasta la vista, baby ». Et on les remettait dans un bateau et ils quittaient la ville. Si tu as les moyens de travailler et que tu ne le fais pas, alors tu manges pas. Et donc, on était dans un monde où, et c'est biblique, quelque part, on doit travailler, c'est une bénédiction, surtout si Dieu nous a donné une santé. Et si on peut le faire, c'est une bénédiction. Ceux qui ne travaillent pas à cause d'un handicap, discutez avec eux, vous allez voir. Ils préféreraient largement travailler que rester à la maison. Hein. Alors, la terre est maudite, nos corps sont maudits, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi j'en ai plein à la maison, c'est des chardons. Hein, il y en a qui sont venus cet été, qui se sont promenés pieds nus et qui n'ont pas trop aimé parce qu'il y a des petits chardons qui poussent et qui deviennent gros. Alors je les arrache, mais ils repoussent. Et ça fait partie des épines. On a des ronces qui poussent dans nos haies. C'est comme ça, ça pousse. On n'a rien demandé. Des chardons, des épines. Le travail devient pénible. Et en fait, tout est affecté. Et nous, on va mourir. Ça, c'est une des conséquences. C'est la mort physique de l'homme. Nos cellules ne vont plus se régénérer. On va comprendre pourquoi, en fait. 6. Avez-vous déjà ressenti des émotions similaires? On va peut-être pas s'étendre là-dessus parce que on a déjà dialogué, mais en tout cas, je pense qu'on a tous ressenti ce genre d'émotions et ce qu'ont vécu Adam et Ève. On va dire que c'est même quotidien. En tout cas, pour moi, c'est quasiment quotidien. Peut-être pas tout, mais presque. 7e question. Alors, quel espoir apparaît dans le texte, notamment ce qui concerne le sort du serpent? Donc vous voyez, là je vous ai aidé avec une image. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la seule lumière positive quelque part qu'il y a dans le texte. Je mettrai inimitié, alors c'est le verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrase. Alors il parle au serpent, la postérité de la femme, elle va t'écraser la tête et toi tu lui blesseras le talon. Certains commentateurs appellent ça le proto-évangile, l'évangile avant l'heure. Voyez, qui c'est cette descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent? C'est énigmatique. On répondra pas ici à cette question parce que c'est pas le but. On a une petite idée, mais on va la découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer. Je fais juste que relever ici l'élément positif, d'accord? Et c'est important de le faire. Si vous avez ce manuel, ne balancez pas toutes vos connaissances sur Jésus, ok? Même si ça paraît assez évident, non, on découvre le texte au fur et à mesure. Là, il y a une touche d'espérance, on est d'accord. Mais il y a aussi une autre touche d'espérance. On va le voir avec Dieu. Qu'est-ce que fait Dieu? Ça, c'est les questions qui viennent juste après. Donc là, le serpent va venir et donc il va triompher. Il va blesser, d'accord, Il va blesser celui qui va lui écraser la tête, parce qu'il dit qu'il lui laissera le talon. Donc, il va le mordre avant, mais il y aura la victoire sur lui. Vous voyez? Donc, Satan, le serpent ne triomphera pas définitivement. Pour le moment, il a l'avantage, mais après, il va perdre. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire ici. Je pense qu'il ne faut pas trop s'étaler. 8. Que fait Dieu et en quoi cela est-il touchant? Ah, c'est là où ça devient intéressant. Qu'est-ce que Dieu fait, en fait, à Adam et Ève? Et ça, c'est une touche positive. Alors, positive et négative en même temps. Qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce qu'ils avaient fait, eux? Ils s'étaient construit un pagne avec des feuilles de figuier. Mauvaise idée. J'avais un figuier dans mon jardin. Les feuilles de figuier, elles sont bourrées de sève. Vous voyez, quand vous prenez une figue sur un arbre, ça coule, il y a du lait. Vous voyez, le lait, on appelle ça le lait, mais c'est de la sève. En fait, elles sont abondamment irriguées. Et les feuilles, c'est pareil. Quand vous arrachez une feuille, c'est une grosse feuille, hein, c'est comme ça, une feuille de figuier. Bon, après, ça dépend, il y a plusieurs races de figuier, mais entre cette taille et cette taille, quand vous la coupez, vous la coupez de la branche, il y a du lait qui coule pendant... Voilà, ça colle, donc ça c'est bien de la sève. Si vous la laissez par terre, alors souvent quand c'est au moment de l'été, il y a toujours des feuilles qui tombent par terre. Le matin, vous regardez vos feuilles qui tombent, boum, elles sont vertes. Vous repassez 2 heures après, elles ont diminué d'un quart. 2-3 heures après, elles sont de moitié. En fait, c'est comme c'est beaucoup de sève, la feuille, elle se flétrit. Donc vous imaginez vous construire un pagne avec des feuilles de figuier. Il n'y a rien de pire en fait, c'était pas le bon arbre que t'as pris. T'aurais pris des fougères à la limite, mais là, non. En fait, c'est aussi symbolique. C'est que l'arbre n'est pas pris au hasard ici. Est-ce que le fruit qui était défendu était le figuier? On ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas une pomme. Peut-être, mais le texte ne le dit pas. D'accord? Même si vous avez une pomme d'Adam, c'est pas forcément une pomme. On ne sait pas. Peut-être une grenade, parce qu'elle a été explosive. Bon, ça, c'est une blague. Alors, qu'est-ce que va faire? Parce que, bien sûr, ça tient pas, ça. Toute la journée, ils sont en train de ramasser des feuilles, et hop, ça tombe, ils en remettent. Qu'est-ce que va faire Dieu? Il va les couvrir d'un vêtement de peau. Alors, je pose la question. Qui c'est qui a un blouson en cuir ici? Personne? Là, ici, là, vous l'avez là, non? Ah non, je voulais juste savoir s'il était vivant. Quoi? Ça veut dire quoi? Quand on a un vêtement de peau sur nous, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort. Hein? Il n'est pas allé au supermarché acheter des pelotes de laine ou du coton pour faire un tissu. Hein? Non, 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 là, c'était une vraie peau d'animal. Donc, il a dû sacrifier un animal. C'est hyper important de comprendre ça à ce moment-là. Parce que pour corriger la faute d'Adam et Ève, qui essayent avec leurs œuvres, qui ne durent pas longtemps, alors ça camoufle hein, pendant un temps les œuvres, mais on est obligé constamment d'en rajouter. Et c'est sans fin en fait. Si vous voulez un salut par les œuvres, les amis, vous n'y arriverez pas. Vous ne saurez jamais si vous avez assez de feuilles pour couvrir votre nudité. Et Dieu dit, non, 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 arrête avec tes feuilles, moi je vais te couvrir toi. Qui c'est qui a l'initiative de ça? Ça, c'est à relever. C'est pas l'homme qui prend l'initiative. L'initiative de l'homme, c'est d'aller chercher des feuilles. L'initiative de Dieu, c'est de prendre de quelque chose de beaucoup plus durable, voyez. Mais ça a un coût. Il a dû tuer un animal. Premier sacrifice de l'histoire. Premier sacrifice. Et là, on voit que l'homme n'est pas l'équivalent de l'animal parce que c'est pour couvrir la faute de l'homme qu'on sacrifie un animal. Donc, on n'est pas du tout au même niveau. L'homme est à l'image de Dieu et il ne va pas prendre un humain et prendre la peau d'un humain pour la couvrir. Quoique, un jour, ça viendra. Mais jusque-là, c'est la peau d'un animal qui n'est pas au même niveau que l'homme. Donc, il faudra répéter cet acte. Voyez. Là, on n'a pas grand-chose comme détail, mais c'est important de le souligner pour la suite. Qu'est-ce que Dieu va faire encore? Ou qu'est-ce qui est touchant plutôt? Moi, je vois ici la manifestation de la grâce dans le jugement. En fait, malgré leur rébellion, Dieu pourvoit encore à leurs besoins. Dieu, il aurait très bien pu empêcher que les fruits se reproduisent. Il aurait pu rendre les semences stériles. Monsanto, tiens, ou les rendre dépendants. En fait, Dieu y permet que la terre continue de donner, même s'il faut gratter, on a quand même cette possibilité de manger. Il aurait pu donner des fruits amers. Il aurait pu rendre la nature qu'avec des chardons. Dieu aurait pu faire ça. C'était une des conséquences. Au lieu d'avoir de l'herbe dans votre jardin, vous auriez que des chardons. On n'irait pas trop pieds nus dans l'herbe, hein, je pense. Il aurait pu faire comme avec Ananias et Saphira lorsqu'ils ont péché. C'est pas ce qu'il fait. Il y a la grâce qui est là, qui est manifeste. Il aurait pu créer un seul aliment, les amis. Imaginez qu'il ait mis que du riz. Et je sais que dans certaines populations, beaucoup plus pauvres, eh bien, ils mangent le même repas 3 fois par jour. On a encore de la variété, les amis. Enfin, j'imagine que chez vous, vous n'avez pas qu'un seul fruit. Vous avez au moins 2, non? Une pomme et une banane, ou combien? Quel est le minimum? Vous voyez, aujourd'hui, on a des supermarchés où on peut choisir nos fruits, même à toutes les saisons maintenant. Mais il aurait pu faire qu'il n'y ait qu'une sorte de variété, une céréale. Ce sera suffisant. La manne, vous voyez, des céréales. Je vous donne des Kellogg's. Vous mangez ça toute votre vie, tous les repas. Il ne l'a pas fait. C'est la grâce, les amis. La grâce de Dieu. On voit la manifestation du pardon, hein, au travers du sacrifice et de la miséricorde et de sa protection. Comment? Eh bien, parce qu'il va les chasser du jardin. Donc, c'est une malédiction, ça, être chassé du jardin. Et il va leur empêcher quoi? De prendre de l'arbre de la vie. Un arbre symbolique ici, mais probablement c'était un arbre qui procurait la vie éternelle et qui régénérait les cellules. Et ils avaient libre choix d'en prendre dans le jardin. Sauf que là, ils ont péché. Si tu pêches, est-ce que tu aurais envie de rester comme ça toute ta vie? Pas moi. À un moment donné, il va y avoir une fin. Et en fait, si Dieu avait permis qu'ils prennent de cet arbre de la vie maintenant, qu'est-ce qui serait passé? Ils auraient prolongé, ils seraient restés dans cette situation. Ils auraient prolongé leur souffrance quelque part. C'est horrible. Donc Dieu envoie un jugement ici. Ok, je me sépare de vous, vous allez ailleurs. Et donc il a planté des chérubins, il a mis des gens devant, des gardes du corps, pour dire non, don't touch, tu ne touches plus à cet arbre. Tu n'as plus le droit. Tu as perdu la vie là. Mais c'est une des conséquences de ta désobéissance. J'avais averti, hein. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras pas immédiatement, mais certainement. Il y a une certitude. Tu ne prendras plus de cet arbre de la vie qui te régénère tes cellules. Tu mourras. Et qu'est-ce que font les gens? Ils cherchent l'élixir de jouvence aujourd'hui. Hein? Mesdames, vous prenez des crèmes anti-rides? Messieurs aussi, hein. J'en mets tous les jours de la crème. C'est pas forcément pour l'antiride, mais quand même, on en prend. Et les gens veulent que ça dure. Je dis, mais moi j'aimerais que ça s'arrête rapidement et que j'aille avec mon Seigneur, qu'on retrouve ce paradis perdu. Ça, c'est ce qu'on désire tous au fond de nous-mêmes. Mais comme les gens n'ont pas cette espérance-là, bah, ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Et donc, bah, ils vont essayer de créer leur propre paradis ici-bas. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est cette philosophie humaniste, en fait, qui reste, parce que y a rien d'autre après. Voilà, on a terminé ici sur les 8 premières questions. Normalement, il faudrait écouter un récit, et je vais m'arrêter là, parce que normalement, il faudrait faire le récit de Caïn et Abel. Mais je le ferai la prochaine fois, hein.